En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bien, merci beaucoup Jean-Yves de cette intervention. Je propose que l'on commence une discussion sur les deux interventions de début d'après-midi dès maintenant. Est-ce que François Cochet?
Tu sembles dire qu'il y a adaptation des procédés de combat en haute montagne, mais pas véritablement prise en compte d'une vraie spécificité, c'est-à-dire qu'on plaque des règlements militaires sur un milieu, ce qui me pose problème, effectivement, et qui semble assez cohérent avec ce que tu disais sur l'absence de doctrine. Et puis, une question anecdotique à propos du Monte Grappa, est-ce que dans la mémoire italienne, il y a de la place? Je crois qu'il y a un monument, mais y a-t-il de la place pour les bataillons de chasseurs alpins qui ont participé à Monte Grappa aussi?
Alors, je vais répondre par la fin, la troisième question. C'est une question d'actualité. Hier, j'étais à Rovereto, au musée de la Grande Guerre, dans le 31, et ce musée de la Grande Guerre est certainement l'un des musées les plus riches concernant la Grande Guerre en Italie. Et il y a une salle consacrée à Caporetto, à la défense, à la bataille d'arrêt de Caporetto sur le Piave, et en particulier l'évocation de la défense du Monte Grappa. Dans le discours, la légende ou le carton de présentation de cette bataille, à aucun moment il ne fait référence aux troupes françaises et britanniques. Je réponds donc à la question. Il y a une volonté d'occulter au musée de la Grande Guerre, ce n'est pas le cas de tous les Italiens, mais en tout cas, ce musée de la Grande Guerre, qui a une vocation pédagogique fondamentale parce qu'il est visité par des écoles tous les lundis matin avec un accord passé avec l'éducation nationale, il y a là une redéfinition de la guerre en montagne qui fait que le rôle des troupes alliées franco-britanniques, fût-elle fondamentale ou secondaire, est passé de côté. Voilà pour répondre à ta question.
Pourtant, à ma connaissance, il y a un monument au sommet du Monte Grappa en l'honneur des BCA, des bataillons de chasseurs alpins.
Absolument. Donc là, il y a un double discours.
Belle négation.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'un côté, mais ça remonte à 1921, juste à l'immédiate après-guerre, où il y a une volonté de collaboration mémorielle entre la France et l'Italie, car les soldats français morts en terre italienne, sur le Monte Grappa par exemple, renvoient à la mémoire des soldats italiens morts en France, à Bligny, près de Reims. Et il y a là un échange mémoriel. Et là, nous sommes dans la récupération, si je puis dire. Aujourd'hui, il y a dans ce musée-là, et j'ai fait la réflexion au conservateur du musée, qui n'a pas bien pris, mais qui, je lui disais, il serait bon de rajouter au moins une ligne pour dire qu'il y a quand même des divisions françaises et britanniques qui étaient présentes. Sur la question de la doctrine d'emploi des forces en montagne, les chasseurs alpins naissent effectivement en 1873, les alpines, il y a donc antériorité, ils deviennent une unité de référence par rapport à la création des chasseurs alpins français. Ce qui est intéressant, c'est qu'on applique aux alpines la doctrine d'emploi des forces normale, si je puis dire, qui correspond à privilégier l'offensive, l'assaut des hauteurs ou de la plaine. Mais il n'y a pas la rédaction d'une doctrine d'emploi spécifiquement adaptée à la montagne. Ce qui fait que jusqu'en 1914, les seuls éléments tactiques qui sont retenus relèvent de la défense absolue derrière la ligne de fortification qui est érigée entre 1871 et 1914, qui est l'équivalent de la ligne serrée de rivière pour les Italiens. La logique défensive, avec l'utilisation d'une escouade ou d'une unité de chasseurs alpins équipée d'une mitrailleuse pour mener une bataille d'arrêt. Voilà le seul élément de doctrine d'emploi des forces. Mais il n'y a pas l'élaboration d'une utilisation de forces de masse, de plusieurs milliers d'hommes par exemple, définissant les modes de tactique d'assaut, la prise d'un sommet, le maintien au sommet, et ensuite franchir le sommet pour descendre sur le versant, l'utilisation de l'artillerie de montagne qui doit accompagner, mais où doit-elle être, ainsi de suite. Donc tout cela se construit de façon empirique à partir de, à mon sens, à partir de la réflexion de Cadorna en août 1914 sur les objectifs à prendre, tenir les hauteurs et, si possible, mener une bataille offensive dans le Cador et le Frioul, avec la 4e armée, parce que dans cette ligne de front, les Italiens débouchent directement sur les vallées autrichiennes qui donnent accès à Vienne ou à Trieste. Voilà. Si je vais en prendre, je ne sais pas.
On crée des Alpini, mais on ne crée pas la doctrine d'emploi. Quasiment. Le milieu quasiment géographique est nié.
S'inscrit dans une logique de troupes adaptée à un milieu montagnard, mais dans une logique fondamentalement défensive, si je puis dire. Voilà, je simplifie, évidemment. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, François?
Oui, j'ai une question, une interrogation. Est-ce que finalement, le débat que vous venez d'avoir, ça ne traduit pas le fait que on s'est rarement battu en montagne? Enfin, je veux dire, c'est jusqu'au XXe siècle. On discute là-dessus parce que peut-être que j'oublie un combat, mais je suis en train de chercher dans la guerre napoléonienne. En fait, on franchit les Alpes, là, bien sûr, ça, on le sait, on franchit les Alpes, il y a des tableaux et tout ce qu'on veut, et on se bat de l'autre côté dans la plaine, on se bat à Marengo, alors je ne remonterai pas aux guerres d'Italie, mais je pensais à ça. Et puis après, au 19e, Solferino, c'est la plaine, presque. Les batailles de l'unité italienne, elles sont soit côtières, soit en plaine. Finalement, du côté italien, du côté autrichien, j'avoue mon ignorance. Mais du côté italien, finalement, peut-être qu'on n'a pas cette habitude, finalement, d'un combat en montagne.
Mais personne
ne l'a.
Si, j'aimerais faire une précision, pardonnez-moi.
Peut-être les Suisses.
Il y a quand même, en 1866, dans la débâcle que connaît l'armée italienne dans les deux batailles de Custoza et Lissa, une victoire dans les Alpes en 1866, à Bezzecca, qui est en plein milieu montagneux. C'est une bataille de montagne menée par les volontaires de Garibaldi, les chemises rouges. C'est une bataille de montagne. Et Bezzecca se trouve en montagne. On est à l'ouest du lac on est au sud du Trentin. Voilà. Bezzecca. Donc on est dans un milieu montagneux à 1500-2000 mètres d'altitude. Difficile d'accès, je suis allé en voiture, mais heureusement, parce que pour y aller à pied, il y a un verrou à franchir, enfin, c'est très très dur. Mais cette bataille de montagne se fait comme si elle se déroulait en plaine. C'est-à-dire que la bataille de montagne de Bezzecca, bataille alpine type, ne se fait pas sur les versants, on ne cherche pas à prendre les sommets, mais on se bat dans la vallée glaciaire de Bezzecca. Et l'on reproduit le schéma type d'une bataille de tranchées. On charge à la baïonnette, on se défend avec une artillerie, quelques canons. Et donc on reproduit en milieu montagnard la bataille type que l'on pourrait développer dans la plaine. Mais il y a eu une expérience dans les Alpes, mais elle n'a pas généré une adaptation véritable de la doctrine d'emploi des forces, typiquement montagneuse. Voilà.
Côté Pyrénées, que ce soit les guerres de la République ou du Premier Empire, on s'est rendu compte que les Pyrénées, on pouvait les passer très facilement, même si dans les écrits de l'époque, on dit les Pyrénées, c'est la barrière. J'ai fait un texte là-dessus, le mythe de la barrière. Et de toute façon, dans la doctrine militaire française à la fin du XIXe siècle, on laisse venir les Espagnols en plaine française et on les combat dans le Piémont. De toute façon, on ne pourra pas les arrêter sur les Pyrénées. Voilà.
C'est-à-dire qu'il faut tenir les hauts pour mieux se battre dans les bas.
Je rajouterai que pour la doctrine d'emploi en Italie, jusqu'en 1914, les grandes batailles décisives doivent se dérouler dans la plaine de la Vénétie. Et le Piave est déjà considéré par l'état-major italien comme une ligne d'arrêt en cas d'invasion austro-hongroise dès les années 1890. Au fond, ce que fait Diaz en 1917 n'est que l'application des mesures qui avaient été définies par l'état-major général italien, du général Pollio, en 1893. C'est bien que l'idée des batailles doit se dérouler en plaine pour reproduire la doctrine d'emploi des forces, plutôt que de mener des batailles à 2000 mètres d'altitude, comme ça a été le cas en 1916 et 1917. Là, il me semble qu'il y a une mutation dans la doctrine d'emploi des forces, liée à la Grande Guerre et à la prise en compte du milieu montagneux, la nécessité de mener une guerre, une bataille dans les Alpes.
Et pour compléter, juste une remarque, Nicolas, après je te donne la parole. Pour compléter ce que tu viens de dire, Hubert, dans la doctrine française, on commence à prendre en compte véritablement les éléments géographiques de manière plus détaillée, comme la montagne, par exemple, à partir de la Première Guerre mondiale. Il y a une vraie rupture culturelle, militaire, à partir de cette période. la montagne, l'espace urbain également, commencent vraiment à être pris en compte. Il y a quelques paragraphes dans certains textes à la fin du XIXe siècle, mais c'est surtout à partir de la Première Guerre mondiale. Donc ça confirme ce que tu viens de nous dire.
Et Nicolas Todorov. Tu aurais une question. Là, est-ce qu'il y avait une réception, une perception de la défaite anglaise en 1838 en Afghanistan ? Il y a quand même un massacre brutal.
Oui, il y a les revenus heureux, officiellement.
Oui. Et qui s'est déroulé, a priori, aussi dans un milieu...
Oui, dans les gorges, hein, l'évacuation en catastrophe.
Oui, Roncevaux.
Oui, un corps de 17 000, hein, 17 000 hommes, quand même. Hein, oui.
Donc, comment ça a été reçu, éventuellement ?
Alors, juste un complément, c'est mon côté aviateur, mais puisqu'on parle de milieu donc terrestre principalement, le milieu aérien a également pris en compte les doctrines d'emploi dès la Première Guerre mondiale. Donc il semblerait que peut-être quelque chose a réutilisé là-dessus, le faisceau d'éléments qui sont pris en compte dans les doctrines par milieu. La marine, je ne sais pas, ce serait peut-être intéressant de voir s'il existe des choses là-dessus. Ouais.
Juste un point, finalement, en 1915, on se bat dans les Vosges. C'est très, très, les anniversaires sont en ce moment d'ailleurs. Et finalement, François, finalement, on s'y était, enfin, je connais un peu la région, on s'y était jamais battu avant. Turenne a fait le tour pour aller se battre par la plaine Alsace un petit peu deux siècles avant. Et alors qu'on se bat presque sur la ligne, pas tout à fait la ligne de crête, on est un petit peu en dévers de la ligne de crête, l'Artsmann, c'est un peu après. Est-ce que finalement, c'est pas lié, cette prise en compte finalement de combat dans les montagnes, pour ne parler que du milieu montagnard, au début de la Première Guerre mondiale, n'est pas dû au fait qu'il faudrait chercher plutôt dans le fait qu'au 19e, les frontières, là je reviens, c'est toujours très géographique, se fixent davantage et qu'on se bat véritablement davantage sur la ligne symbolique. Et le poteau frontière qu'on arrache, on a la même photo dans l'illustration du côté français, etc. Je ne sais pas, hein, je dis ça, c'est parce que...
Pour ma part, j'estime, et je serai en accord avec Hubert une fois de plus, je vous signale par parenthèse d'ailleurs qu'il y a un colloque auquel nous sommes plusieurs à participer qui se tient les 21, 22 et 23 mai à Épinal et Colmar sur ces questions de la guerre en montagne, la grande guerre en montagne, hein, 14-18 en montagne. Bon, je crois qu'il y a une prise de conscience des hauts comme utilité militaire, mais cette prise de conscience, elle est antérieure, à mon avis, à la guerre 14. Ce qui change en 14 sur les combats effectifs, c'est la notion de verticalité, alors qui commence à être intégrée aussi avec l'aviation, bien entendu, mais en termes d'observation. C'est-à-dire que si tu regardes les combats effectifs, notamment dans les Vosges, c'est le besoin d'observer la plaine de l'adversaire qui impose des combats sur les hauts. C'est-à-dire que, quelque part, ça donne raison à Hubert. C'est-à-dire que c'est toujours... Et j'en parlerai un tout petit peu demain. On ne peut pas considérer les éparges comme un combat de montagne, mais la pente est quand même très, très forte. Hein. Et il s'agit bien d'avoir un regard sur la plaine de Wavre. C'est-à-dire que c'est l'offensive de la plaine de Wavre qui surdétermine, en quelque sorte, la nécessaire possession du combat sur les hauts. Et donc, on est bien dans un schéma on compte se battre sur les bas, mais pour ça, il faut tenir les hauts.
Je voudrais rappeler quand même que la bataille de Caporetto, les Italiens ont appliqué la directive de Cadorne, ils ont tenu le haut, et les Austro-Allemands sont passés par le bas.
Oui, c'est ça.
Et ils ont réussi.
Alors, il y a une question d'André Loucher et de Grégoire Binois également.
C'est tout le problème, je déborde le cadre chronologique, mais ce qui s'est passé en 1943-44, c'est-à-dire la doctrine Clark et Anzio, et puis la doctrine Juin sur Cassino, là aussi c'est flagrant. Maintenant, la guerre de 14, je crois qu'il y avait le capitaine de Fliedieude qui a été sur les crêtes. Hein, il a été tué sur les crêtes, il me semble. De Fliedieude. C'est à tout près de Saint-Dié. Voilà, mais c'était sur la crête.
Oui. Et du coup, moi, c'était une question sur la postérité d'un texte de l'époque moderne. Je pense en particulier, donc, du coup, mémoire sur le système de guerre en montagne de Boursey, qui a été réédité justement dans les années 80. 1880 en France, savoir comment est-ce qu'il a été intégré ou non dans les réflexions dans les écoles de guerre et comment justement ça participait à cette réflexion théorique sur une pensée un peu plus systémique de la guerre en montagne, justement, du coup, en posant également la question des héritages et à quelle échelle de temps, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse.
Une simple remarque.
guerre à la montagne.
Monsieur Béchler, vous avez une question à poser ?
C'est pas une question, c'est
une remarque intéressée. Les différents orateurs tiennent compte ou tiendront compte dans la rédaction définitive de leur texte des questions qui leur sont posées, des réponses qu'ils y apportent, parce qu'il y a un enrichissement réel. Enfin, c'est du moins mon sentiment. C'est le sentiment de quelqu'un qui ne connaît pour ainsi dire rien de tout cela, enfin, mais qui est tout à fait intéressant. Enfin.
Merci. J'aurais peut-être pour terminer deux questions à poser, l'une à Hubert et l'autre à Jean-Yves, qui sont des questions liées à la connaissance géographique. En France, au début de la Première Guerre mondiale, en octobre, est créée donc la commission de géographie, on en parlait ce matin. Est-ce qu'en Italie, des géographes universitaires italiens sont appelés dans une commission pour travailler sur des monographies régionales, et notamment sur le secteur que tu mentionnais ? Pour Jean-Yves, Niox a écrit un ouvrage volumineux que je n'ai pas lu en entier il y a une quinzaine d'années, je le dis tout de suite. Est-ce qu'on sent déjà dans cet ouvrage la fibre du géographe qu'il va devenir officiellement plus tard dans les années 1870 ?
Oui, on le sent vraiment parce qu'il y a une grande attention à tout ce qui est caractéristique du milieu, la question des maladies, de l'acclimatation, des ressources, de l'eau, géopolitique aussi, le regard par rapport aux voisins nord-américains, etc. Non, on sent vraiment quelqu'un qui est très sensibilisé à ces questions-là. Ouais.
Au moment où il a fait cette expédition.
J'ai oublié les dates que je donnais tout à l'heure. Oui, il était jeune lieutenant, hein, ouais. Et il est arrivé en 1863. Hein, il n'est pas arrivé au départ. Et donc tout le début de l'ouvrage, qui consacre de nombreuses pages, c'est sur archives et sur témoignages.
Ouais. Bon, je pense qu'on rebondira demain matin sur cette question, puisque Jean-Noël Grandhomme va aborder justement Gustave Jean-Niox. On en saura un peu plus. Hubert.
Eh bien oui, là, j'ai le regret de te dire que je n'en sais rien. C'était une ignorance crasse, mais que je suis historien, je ne suis pas géographe. Donc il va falloir combler cette lacune.
Peut-être qu'il n'y a pas eu de géographe universitaire appelé.
Il y en a eu, mais il faut chercher, il faut creuser. C'est un aspect, à mon sens, vierge. Bon, je ne suis pas historien militaire italien, je ne suis pas italien, quoi. Je chercherai.
En tout cas, ce n'est pas de notoriété publique, a priori, en Italie, dans l'épistémologie.
Je ne l'ai jamais vu signaler. Alors, oui, si ces géographes universitaires sollicités existent pour développer une doctrine militaire ou autre, ou bien cela fait partie du domaine des géographes, donc il faut que je me penche là-dessus, il faut que j'abandonne un peu les ouvrages historiques pour me pencher sur les ouvrages géographiques, ou bien alors, effectivement, ils n'existaient pas, ou ils ont une influence trop minime. Mais à mon avis, c'est un champ à explorer. C'est un nouveau champ de recherche.
Et c'est très possible. Je me souviens d'un article du colonel Botti, publié dans la revue Stratégique il y a 10 ans, qui abordait l'histoire de la géographie militaire italienne. Il ne cite pas d'auteurs contemporains, universitaires ou autres, ayant travaillé sur cette question-là.
Je n'en sais rien. Donc il faut creuser. Quoi. Mais c'est bien.
Alors, bien. Merci beaucoup pour... Frédéric, tu peux prendre bien sûr la parole, on a le temps. Hein.
Simplement, oui, parce que je suis frappé dans les communications, d'une part par le manque de préparation militaire, bien souvent, alors c'était flagrant pour le Mexique plus encore que pour les Alpes, et d'autre part par la nécessaire adaptation à chaque fois. J'ai l'impression qu'on fait la guerre, qu'il y a une manière de faire la guerre, on la transpose quel que soit le milieu, c'est vrai pour la montagne, puisqu'il n'y a pas de doctrine avant la Première Guerre mondiale, on pourrait même ajouter que c'est vrai sur mer, on fait la... 18e siècle, on fait la guerre sur mer comme on l'a fait sur terre, on se met en ligne, on se tire dessus, bon, voilà. Et donc, j'aurais une question plus particulièrement à propos de l'expédition du Mexique. Est-ce que les premiers concernés par le milieu et par l'impréparation militaire, c'est-à-dire les simples soldats, ont laissé des témoignages, justement, sur le milieu ?
Oui, beaucoup. Beaucoup, parce qu'ils l'ont subi. Là, je n'ai parlé que de Veracruz, mais parce qu'hormis l'étage intermédiaire dit tempéré, les plateaux, là, les zones chaudes étaient épouvantables. Donc on a la chaleur, la poussière, l'absence de l'eau, la marche, Il manquait de le chariot, les mules mouraient, il a fallu acheter du matériel à New York, faire venir des mules des Antilles, donc ils sont surtout partis à pied. La question de l'eau, on a beaucoup, Niox raconte que lors de la deuxième expédition sur Puebla, les Français partent avec... non, la première expédition, ils sont 6000, ils partent avec un nombre de rations de vin extraordinaire et ça fait rigoler tous les auteurs mexicains. J'aurais pu avoir... Il y a un auteur mexicain qui se demande si à cette époque-là, l'armée française, c'était pas l'armée qui présentait le plus alcoolique au monde, parce que ça faisait une ration quotidienne de 20 litres par jour, vu la durée de l'expédition. Et les soldats parlent de ça. Et pire que ça, enfin pire, on trouve des choses assez rudes dans les archives, notamment je suis tombé sur un rapport sur les suicidés. Avec des témoignages, on cherche à comprendre pourquoi les soldats se sont suicidés. Et il y a des témoignages, blessés, il est resté au soleil depuis deux jours sur une mauvaise remorque, il a demandé à descendre, etc. Et il s'est fait sauter la tête. Donc ça a vraiment été très dur, très très dur, le Mexique. Et ça, on l'a dans les témoignages. Il nous est arrivé, et j'étais surpris. On a certes des officiers supérieurs ont écrit, mais pas que les officiers supérieurs. On a des témoignages de sergents et même de sous-officiers et même de soldats. Hein. Et la qualité de l'écriture, la description des milieux. Et c'est d'autant plus précieux. Je terminerai là. C'est que dans ce témoignage-là sur le milieu mexicain. De témoins qui sont des soldats ou des sous-officiers, on est sûr d'avoir un regard neuf et non pas d'officiers supérieurs qui vont essayer de retrouver au Mexique ce qu'ils ont lu chez Humboldt, etc., qui vont essayer de calquer le peu de choses qu'on connaît hein, du milieu mexicain sur ceux qui se présentent à eux. Et donc c'est ce genre de témoignages qui sont précieux pour nous, très précieux pour nous.
Je vous propose qu'on fasse la pause qui est prévue dans le calendrier et nous reprenons dans une quinzaine, vingtaine de minutes environ.